Connaissez-vous la loi française visant à sécuriser et réguler l'espace numérique ? Elle est appelée loi SREN ou SREN. Déposée sous forme de projet de loi par le gouvernement en mai 2023, ce texte a fait beaucoup, mais alors beaucoup parler. À bien des égards, nous pourrions même dire qu'il a fait polémique. Concrètement, la loi SREN a pour objectif, par exemple, de protéger les citoyens des arnaques en ligne, de protéger les mineurs contre la pornographie, ou encore de faciliter la migration d'un cloud à un autre. Des objectifs honorables, bien sûr, mais qu'en est-il de la méthode ? Plusieurs associations et experts évoquent une loi autoritaire qui viendrait remettre en cause le sacro-saint principe du pseudonymat sur Internet. Aujourd'hui, une chose est certaine, ce projet de loi a d'énormes implications. Par exemple, en voulant contrôler l'identité des personnes allant sur des sites pornographiques, ce sont tous les modes d'accès aux plateformes comme les réseaux sociaux qui changeront. Le gouvernement souhaite aller tellement loin que son texte vient marcher sur les plates-bandes du RGPD et surtout du récent DSA, le Digital Services Act. De quoi susciter l'ire de la Commission européenne au point que l'adoption et l'examen de la loi prennent du retard, nous le verrons. Alors dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Marc Ries, journaliste aux médias L'Informé, pour évoquer les mesures de cette loi SREN, son avenir, ainsi que les raisons de la colère de la Commission européenne. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Marc.
Bonjour Grégoire.
Merci d'avoir trouvé le temps de répondre à mes questions sur la loi SREN. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, SREN.
Oui, SREN, pour le projet de loi visant à sécuriser et réguler le numérique.
Et je rappelle que tu es journaliste au Média L'Informé actuellement, spécialiste dans le droit et la tech, si je devais résumer.
C'est un excellent résumé, oui. je fais ça depuis plus de 20 ans maintenant, mais j'ai arrêté de compter parce que c'est assez décourageant ou démoralisant, mais voilà, ça fait plus de 20 ans, on va dire.
Mais non, faut pas le voir comme ça. Alors la loi SREN, justement, elle a fait un petit peu de bruit déjà hein, ces derniers mois, et elle va sans doute encore en faire beaucoup, parce que son processus n'est pas terminé, parce qu'elle fait polémique pour certains acteurs concernés. Elle doit, pour résumer, tu l'as déjà un peu fait, réguler les plateformes en ligne, finalement, mieux protéger, entre autres, les mineurs de la pornographie, lutter contre le cyberharcèlement, les arnaques en ligne, et j'en passe. Mais alors, Marc, pourquoi cette loi pose problème à certains ? Pourquoi elle fait polémique ? Elle est dénoncée par de nombreux élus, mais aussi des associations comme la Quadrature du Net, notamment, alors que ses objectifs semblent tout à fait louables à cette loi.
Ah oui, bah, déjà, d'un point de vue factuel, on voit qu'il y a un petit souci, puisque la loi avait été déposée en 2023, je crois que c'était le 10 mai 2023 au Sénat.
C'est ça.
Là, on se rapproche tout doucement du premier anniversaire. Hein. Dans quelques mois, on sera au premier anniversaire de ce texte, qui n'a toujours pas été adopté, tout simplement parce que celui-ci comporte de nombreuses dispositions extrêmement lourdes à être mises en place, et forcément, ben, ça provoque des grincements. Alors déjà, si on s'arrête au titre, un projet de loi qui vise à sécuriser et réguler le numérique, j'allais dire, qui est contre
hein, oui.
Sécuriser le numérique, la sécurisation, c'est plutôt bien, hein, et la régulation, bah, aussi, même si le titre et l'appellation de ce projet de loi laisse entendre que la tech n'est pas régulée, mm-hmm. puisqu'on a un projet de loi qui vient le réguler, mais cette interprétation à contrario, elle est extrêmement piégeuse, puisque le droit des nouvelles technologies, il est mûr depuis des dizaines d'années, donc il est fort d'une épaisse jurisprudence aussi bien française qu'européenne, donc on a des lois de tous les côtés pour réguler aussi bien le contenant, je pense en particulier les fournisseurs d'accès et les hébergeurs,
oui.
ou aujourd'hui les plateformes, que le contenu, donc tout ce qui est diffamation, etc., etc. piratage et tout ça. Mais ce texte-là, il est extrêmement ambitieux parce que, j'allais dire, tu l'as évoqué dans ton introduction, une des principales dispositions, un des piliers majeurs de ce texte, c'est celui qui consiste à instaurer un contrôle d'âge pour accéder à des contenus qui normalement sont réservés aux adultes.
Effectivement, oui.
Rien que ce projet-là, il laisse présager un changement complet du visage de l'accès à Internet au contenu qu'on a l'habitude de pratiquer depuis longtemps, puisque lorsqu'on surfe en ligne, on peut tomber sur des contenus pour adultes, et pour autant, on n'a pas nécessairement à prouver son âge. Alors se pose, je ne vais pas non plus être naïf, hein, se pose nécessairement une problématique de protection des mineurs, il faut évidemment y penser, mais Dans le même temps, on a une difficulté puisque comment on fait concrètement pour contrôler l'âge d'une personne distante? Comment on fait pour contrôler la personne qui est derrière une adresse IP? Et là, c'est un enjeu qui est extrêmement lourd et qui peut changer le visage de l'accès au contenu en ligne, puisque du contenu pornographique, puisque c'est de ça dont on parle ici, on en trouve certes sur Pornhub, YouPorn, etc., etc. Je vais pas toutes les lister, mais on en trouve aussi sur d'autres plateformes. Comme Twitter, devenu X. Si tu tapes un élément quelconque d'une anatomie humaine sur Twitter, eh bien, on trouve de nombreuses images ou vidéos, parfois extrêmement explicites.
Oui, ça concerne vraiment pas que les plateformes pornographiques, cette
Voilà.
problématique.
Et donc, derrière, c'est finalement une vérification, j'allais dire, industrielle, à l'échelle de l'ensemble des plateformes qui est en train de se dessiner pour accéder à des contenus qui, je le rappelle, sont licites. La pornographie, elle, est licite. Par contre, son accès ou le fait de laisser accessible aux mineurs ces mêmes contenus, ça, c'est illicite. Donc, on a vraiment une difficulté extrêmement complexe. Alors, sur ce chantier, je ne veux pas faire de la légistique pendant des heures, mais on avait déjà eu une tentative de réforme législative. C'était en juillet 2020. Et ce texte-là, cette loi avait introduit une première procédure un peu hybride. Hybride en ce sens qu'elle laissait place à une phase d'abord administrative entre les mains du président de l'ARCOM, l'ex-CSA, et une phase judiciaire. Aujourd'hui encore, puisque la loi SRENN n'est pas encore en vigueur, n'importe qui peut dénoncer l'existence d'un site pornographique en ligne qui ne détient pas un solide contrôle d'âge pour s'assurer que les mineurs ne peuvent avoir accès à ces contenus. Et il peut le dénoncer aux oreilles du président du CSA, qui, une fois les vérifications faites, va envoyer une mise en demeure à l'éditeur du site pornographique pour lui laisser généralement 15 jours. Et si dans les 15 jours, il n'a pas trouvé la martingale pour contrôler l'âge des personnes derrière une adresse IP, à ce moment-là, il peut saisir la justice pour réclamer le blocage d'accès à l'égard de tous les internautes de ce site qui est trop ouvert aux mineurs. On a plusieurs procédures qui sont en cours. On a des procédures devant les juridictions judiciaires. On a des procédures devant les juridictions administratives. C'est extrêmement complexe
Et
parce que,
la loi SRENN va plus
oui,
loin que ça, du coup.
à la loi SRENN va plus loin que ça puisque là, le droit actuel, même s'il est encore théorique, en ce sens où on n'a pas encore eu de décision judiciaire de blocage, la loi SRENN va bien plus loin encore, puisque on passe d'une procédure hybride administrative puis judiciaire à une procédure uniquement administrative, où finalement c'est l'ARCOM qui, dans sa toute-puissance, va gérer à la fois les mises en demeure, les injonctions de mettre en place un système de contrôle d'âge, et en plus, derrière, pourra asséner des sanctions, voire ordonner un blocage d'accès du site en question. Et ça change complètement la donne, puisque un blocage purement administratif, eh bien, c'est un blocage qui n'est pas, dont les rouages, les décisions ne sont pas ouverts au public. À savoir que si toi, tu as envie d'assister à une audience devant une juridiction judiciaire, les portes sont ouvertes, tu y accèdes. Là, on n'a plus rien. Donc, tout va se faire dans le silence feutré de l'ARCOM. Et l'idée, c'est d'ailleurs d'industrialiser ces mesures de blocage pour espérer que un contrôle d'âge solide puisse être mis en œuvre. Et le texte actuellement, il est hyper ambitieux, pas seulement pour cette question de procédure administrative, mais aussi parce qu'il charge l'ARCOM de définir un référentiel technique que devra suivre docilement l'ensemble des éditeurs de sites pornographiques, mais aussi Twitter, hein, référentiel qui devra fixer, grosso modo, ce qui est attendu d'une solution de contrôle d'âge, un référentiel technique. Donc, normalement, on aura des éléments un peu techniques sur les modalités concrètes de ce dispositif.
Ok,
Et
oui,
ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore.
Oui, justement, alors avant d'arriver un peu sur où on en est aussi de cette loi qui a été présentée en mai 2023, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce qu'elle contient, sur ses mesures. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des filtres anti-arnaque, blocage rapide, on en parlait des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Lesquels, pour toi, il faut absolument retenir?
Vraiment, la question du blocage administratif des sites pornographiques, c'est une décision majeure. Enfin, des sites pornographiques, des contenus pornographiques, c'est une décision majeure. Non pas parce que ça concerne les contenus pornographiques, mais parce que, à contrario, ça concerne tous les accès à tous les réseaux sociaux. D'autant plus qu'on n'a pas de définition légale hein, dans un code quelconque, de ce qu'est un contenu pornographique. Donc c'est une notion qui est évolutive et forcément complexe à appréhender pour les éditeurs de solutions. Le filtre anti-arnaque, c'est une autre mesure hyper intéressante, hein, qui peut soulever des inquiétudes, puisque l'idée, c'est de... Enfin, beaucoup d'internautes connaissent déjà cette solution, puisque actuellement, elle est privée. Quand on arrive sur un site qui a été dénoncé comme étant un site dangereux, parce que derrière, on a des arnaques à l'appel, on a un message d'alerte de ton navigateur qui t'explique qu'attention, ce site-là présente éventuellement un risque, mais tu as la possibilité de passer outre ce message d'alerte pour effectivement aller voir le site. Et heureusement d'ailleurs, parce que souvent, on a des faux positifs ou un site complètement légite, comme on dit,
oui,
complètement sain, j'allais dire, affiche préalablement à son accès, donc, ce message d'alerte. Donc là, grosso modo, il s'agira de légaliser ce dispositif pour l'inscrire dans la loi. On a d'autres mesures qui sont intéressantes, comme le bannissement des réseaux sociaux, puisque...
Ah, la fameuse peine complémentaire.
Ouais, la peine complémentaire, exactement. La peine complémentaire, donc, en plus d'une sanction pénale qu'on peut espérer lourde lorsque les propos sont extrêmement crasses, la justice pourra demander aux plateformes de provoquer un bannissement numérique. Alors après, derrière la lettre de la loi, derrière la plume du législateur, se posent des questions sur la mise en œuvre concrète de ce mécanisme-là. Comment on fait techniquement pour s'assurer que telle personne va effectivement être bannie, quid si elle utilise un VPN, etc., etc. C'est des problématiques qui se posent systématiquement dès lors que tu as des mesures de restriction. On a d'autres éléments qui concernent l'hypertrucage, enfin toutes les modifications par IA, des images sans consentement. De la même façon, de mémoire, hein, je crois que les éditeurs de plateformes qui mettent en ligne des scènes pornographiques simulant un crime devront afficher un message de sensibilisation. Donc ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment, mais au-delà de la volonté du législateur, comment on fait concrètement?
Et justement,
quid, est-ce qu'il,
oui.
J'allais dire, concrètement, comment on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on va demander aux éditeurs de sites pornographiques, par exemple, de scruter l'intégralité des vidéos pour faire un tri entre celles qui sont, j'allais dire, tout à fait classiques, avec plein de guillemets, hein, et celles qui, effectivement, simulent un crime? Donc, il faudra faire une espèce de listing. Est-ce que, quelque part, on ne va pas imposer à ces éditeurs ou à ces hébergeurs une obligation de contrôle, de surveillance généralisée de l'ensemble des contenus qui sont uploadés sur leurs infrastructures afin de faire un tri? Et d'après la Commission européenne, c'est un peu le risque.
Oui,
c'est un peu le risque.
Ça pose pas mal de questions, en fait. Si j'ai bien compris, c'est pas tant la volonté, c'est vraiment les moyens et la façon de faire qui posent problème. Ça me fait penser, par exemple, à ce que déclarait un représentant de la Quadrature du Net, qui parlait de solutions autoritaires choisies par le gouvernement pour justement protéger les citoyens sur le numérique, pour réguler tout ça. Il y avait justement, c'est souvent, j'ai l'impression, les deux mesures qui font le plus polémique. Ces deux mesures reviennent assez souvent. C'est la vérification de l'âge pour les sites pornographiques et donc la fameuse peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux, notamment pour les coupables de cyberharcèlement. Emmanuel Macron avait parlé de 6 mois de bannissement, de l'empêcher de recréer un compte. Mais encore une fois, comment on s'assure qu'il ne recrée pas de compte? La vérification de l'âge pour accéder à des sites pornographiques, est-ce que ça va passer par une solution officielle comme France Connect, ce genre de choses?
Tu évoquais très justement les propos de la Quadrature, enfin, à savoir que, en substance, les associations sensibilisées aux questions des libertés numériques estiment ce texte autoritaire. Moi, je le vois avant tout comme étant souverainiste, à savoir qu'il fait l'impasse sur tout un carcan européen qui existe et que la France a sollicité, qu'elle semble aujourd'hui, en tout cas d'après les propos de la Commission européenne, un peu trop oubliée. Donc c'est ça qui est symptomatique. Pour répondre à ta question plus ouvertement, aujourd'hui on n'a pas de solution concrète. La CNIL a planché sur une solution de contrôle d'âge destinée à essayer de rester dans les clous de la loi, à savoir respecter le législateur lorsqu'il trempe sa plume dans l'encrier du droit pénal, mais également respecter le législateur européen lorsque celui-ci, le 25 mai 2018, a mis en application, pardon, le fameux règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Pourquoi je parle de ce fameux RGPD? Tout simplement parce que un traitement de données à caractère personnel un peu trop intrusif pour essayer de déterminer l'âge d'une personne est problématique parce que lorsque, pour parler concrètement, encore une fois, lorsque je scrute les habitudes de consommation d'un internaute sur un site pornographique, il m'est extrêmement facile, finalement, de deviner quelles sont ses orientations sexuelles.
Oui, hein, tout juste.
Et là, on se retrouve là, dans un océan très particulier, c'est l'océan des données sensibles, hein, qui font l'objet d'une protection appuyée, un peu plus importante, voire plus, beaucoup plus importante que les données à caractère personnel, j'allais dire classiques, nom, prénom, ou adresse IP ou autre, et sur lesquelles il y a une sensibilité extrêmement forte. Hein. Et donc, la CNIL, tout comme l'ARCOM aussi, puisque celle-ci est soumise au RGPD, sont pris dans un étau complexe entre le droit pénal, le droit des données à caractère personnel, ou plus largement, le droit à la vie privée. La vie privée. Donc, il y a un déchirement complet des objectifs qui sont attendus, enfin qui sont fixés par le législateur, et la mise en œuvre, elle est extrêmement complexe, au-delà encore de la norme telle que celle-ci va aboutir dans quelques jours, ou quelques semaines plutôt, si tant est qu'elle aboutisse.
Si,
c'est pas encore assuré.
Exactement, tu fais bien de le préciser. Est-ce que du coup, cette possibilité, mine de rien, offerte par la loi SREN de contrôle de l'identité, alors bon, c'est aussi assez, ça suscite pas mal de fantasmes aussi, ce débat, parce que certains disent qu'on va devoir mettre, par exemple, nos cartes d'identité, même si tu as bien dit qu'il n'y avait pas forcément encore de solution qui respectait toutes les lois pour faire ça, mais ça ouvre peut-être la porte à ça plus tard et ça fait apparaître des craintes pour notamment l'anonymat en ligne. C'est, si je reprends l'exemple de la quadrature du net, c'est ce qu'il disait finalement, c'est que cette loi SREN, elle menace.
Pseudonymat plutôt.
Oui, eux, ils parlaient vraiment d'anonymat en ligne, mais il est plus juste en effet de parler de pseudonymat. Est-ce que c'est menacé, ce grand principe d'Internet?
Le Paul Midi, qui est rapporteur majorité du texte, a fait état de sa volonté de mettre en place un jour un système de vérification d'identité. Il y a un rapport qui est commandé par le législateur. On a un article qui commande un rapport sur l'effectivité, la possibilité de mettre en œuvre un tel contrôle. Donc il y a quand même une poussée légistique visant à imposer ce dispositif. Et c'est en ce sens où, pour revenir à mes propos introductifs, on en arrive à un mécanisme qui risque de changer complètement la question de l'accès au contenu en ligne. Accéder librement, je dis pas anonymement, mais en tout cas librement à des contenus en ligne, c'est une chose. Accéder après avoir donné sa carte d'identité, c'en est une autre. Qu'elle soit numérique, papier ou autre, scannée, etc., etc. Mm-hmm. Ça change complètement la chose parce que j'imagine aussi peut-être que, un peu comme sous l'œil de ces caméras électroniques, c'est que se sachant finalement à découvert, est-ce que finalement on va pas uniformiser les comportements en ligne? Je ne parle pas de ceux qui sont foncièrement illicites, je parle de tous les comportements qui sont, enfin, peu importe la typologie, mais c'est ce risque-là, c'est le risque d'une uniformisation des activités des uns et des autres, aussi des propos. Et je ne parle pas, j'insiste bien, je ne parle pas des propos illicites, hein, des commentaires crasses et diffamants, injurieux,
oui,
etc.
Oui, on reste dans le cadre légal, oui.
Oui, on reste dans le cadre légal. Mais en tout cas, tout ce dispositif qui montre comme ça une poussée de la régulation des contenus et des contenants en ligne n'est pas encore assurée puisque le texte n'a toujours pas été adopté. On a eu un vote favorable après modification au Sénat d'abord. Ensuite, actuellement, on a eu un vote en commission parlementaire à l'Assemblée nationale et le texte a eu un examen en séance. Mais là, maintenant, le texte attend son examen en commission mixte paritaire, qui est une commission avec 7 parlementaires issus des deux chambres, donc il y en a 14 en tout,
okay.
Qui est chargé de trouver une version, un arbitrage,
oui, une version commune
entre la version du Sénat, bon, une version commune entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais tout ce dispositif, c'est pour ça que je parlais d'une solution un peu souverainiste, tout ce dispositif a un peu trop fait l'impasse sur le droit européen. Et la Commission européenne, plusieurs fois, elle était amenée à tirer la sonnette d'alarme en disant que, attention, on a un règlement, on a un cadre européen, on a une jurisprudence européenne.
Je te coupe, mais la commission mixte paritaire, elle ne devait pas se tenir initialement en décembre?
Si, mais pour comprendre pourquoi il y a eu ces retards à répétition, c'est que lorsque un État membre entend réguler le numérique, tout le numérique, hein, enfin en tout cas même des acteurs qui sont installés à l'étranger, il a l'obligation de notifier sa future législation, son projet ou sa proposition, à la Commission européenne. Pourquoi? L'idée ici est d'éviter un morcellement des législations qui casserait l'idéal de marché unique voulu par le législateur européen. Donc, chaque État membre a l'obligation de notifier son futur texte à la Commission européenne, qui dispose d'un délai de 3 mois ensuite pour examiner à la lettre, à la loupe, chaque terme de ce mécanisme-là. Et pour le coup, c'est ce qui s'est exactement passé avec le projet de loi SREN, mais la Commission européenne a émis ce qu'on appelle dans le jargon un avis circonstancié. Un avis circonstancié, derrière cette expression un peu neutre, mais forte, mais neutre, se cache en fait une critique extrêmement forte où la Commission a décelé des contrariétés évidentes, patentes, avec le droit européen, qui exige de la France qu'elle revoie totalement sa copie et qu'elle tienne impérieusement compte des remarques de la Commission. Et on a eu cet épisode s'est effectivement produit, ce scénario s'est effectivement produit. On a eu un courrier de Thierry Breton qui a obligé la France finalement à revoir sa copie. Et donc, ça a repoussé d'autant cette fameuse commission mixte paritaire. De, si je compte bien, ce sera, enfin, le délai de statu quo 3 mois, puisqu'on a, on a eu d'autres dispositions qui ont été notifiées entre temps à la commission, issues toujours du projet de loi SREN. La commission a jusqu'au 9 février pour procéder à son examen complet.
Okay.
Et ça sera qu'à partir du 9 février que la commission mixte paritaire pourra se réunir. Mais là encore, chacun des membres de la CMP, de la commission mixte paritaire, devra éminemment tenir compte des remarques européennes sous la menace d'une procédure de sanction initiée par Bruxelles, qui serait effectivement peu glorieuse pour un État membre comme la France.
Donc, si j'ai bien compris, la Commission européenne, Thierry Breton notamment, donc le commissaire européen au marché intérieur, ont fait clairement savoir que la loi SREN, en l'état actuel des choses, risquait d'aller à l'encontre de certaines lois européennes, notamment le RGPD ou encore, je ne sais pas, le DSA par exemple.
Le DSA, plus le DSA, ce qui a titillé les attentions de Thierry Breton, c'est plus le DSA et la directive e-commerce de 2000 qui vient régir la responsabilité des plateformes. Pour faire simple, et très court parce que ces questions sont éminemment complexes,
j'imagine.
Mais il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendu le 9 novembre 2023 qui explique bien les choses. En fait, lorsque dans la directive de 2000 sur le commerce électronique, celle-ci reconnaît à chaque État membre la possibilité de réguler les acteurs qui ont pour principal établissement, enfin qui ont leur principal établissement dans le pays en question.
Ok.
Donc
Facebook, l'Irlande, par exemple.
Par exemple, la France, Deezer. Voilà. Quoique Deezer n'est pas un hébergeur, mais voilà, la France peut réguler Dailymotion.
Oui. Oui.
Voilà. Mais quand elle va vouloir déborder de ses frontières pour aller réguler des acteurs qui sont installés souvent en Irlande, mais en tout cas dans un autre État membre, là, ça change la donne. Ça change la donne parce que la Cour de justice de l'Union européenne l'a particulièrement bien rappelé dans un arrêt rendu le 9 novembre 2023 qui concerne Google, Meta et TikTok. Un État membre ne peut pas prendre de mesures générales et abstraites. La loi est typiquement une mesure générale et abstraite pour imposer sa régulation à l'ensemble des acteurs installés en Europe. Elle peut pas le faire. Elle peut pas le faire. Elle ne peut le faire que au cas par cas, avec des mesures proportionnées qui répondent à la volonté de garantir le respect de l'ordre public, de la santé publique, la sécurité publique, la protection des consommateurs, etc. Donc, c'est vraiment des cas typiques et particuliers, mais pas via une loi générale et abstraite qui va s'appliquer à l'ensemble des prestataires. Et le projet de loi SREN, c'est exactement ça. Il se fiche de savoir où se trouve l'éditeur de tel ou tel site pornographique, où se trouve en Europe le représentant de X ou de Twitter. Donc, ça, il n'en fait pas qu'un.
C'est pour ça que ça me faisait penser au DSA. Parce que veut vraiment réguler les plateformes numériques dans leur ensemble, finalement.
Oui, c'est ça l'idée aussi. Donc, la crainte de Thierry Breton, c'est d'avoir un morcellement de la législation. C'est-à-dire que si chaque État membre venait à adopter son projet de loi SREN, d'une Europe unifiée, unique, on en arrive à une espèce d'une Europe multicolore et un patchwork de législation où finalement les flux de données et de prestations de services, etc., vont être complètement fracassés. Parce que un acteur qui va être établi ici va devoir respecter à la fois la loi italienne, française, espagnole, irlandaise, belge, luxembourgeoise, etc.
Ça risque d'être
et ça devient
difficile.
Ouais. Et l'idée du DSA, et ça a été exactement la même idée que pour le RGPD, c'est de créer une méta-législation en plus d'application directe, à savoir c'est un règlement, donc c'est le véhicule législatif le plus musclé, qui puisse s'appliquer de la même façon à l'égard de l'ensemble des États membres. Et cette législation-là, elle est très intéressante dans la mesure où elle casse aussi les volontés de forum shopping, à savoir la volonté pour un prestataire, pour un état, pour une plateforme, d'aller s'installer là où le climat est le plus agréable pour ses intérêts. Avec le DSA, comme avec le RGPD, ces stratégies-là, normalement, théoriquement, elles sont amoindries, pas supprimées, mais elles sont amoindries. Et le problème aussi, c'est que le projet de loi SREN vient marcher sur les plates-bandes, le domaine réservé du DSA, et notamment sur la question de la protection des mineurs. Et donc, on a un double entrechoquement. À la fois, on a un texte français qui a une attitude, une posture un peu souverainiste, mais expansive pour s'appliquer à l'égard de prestataires installés n'importe où en Europe,
okay,
de manière indifférenciée et indiscriminée. Et en plus, on a un texte français qui vient marcher sur les plates-bandes du DSA, DSA qui, en plus, a été poussé, en tout cas voulu par la France.
Oui, c'est vrai.
Notamment après l'échec de la loi contre la haine en ligne voulue par Laetitia Avia. Donc, on a une double difficulté qui a été rappelée par Thierry Breton et qui s'impose aujourd'hui sous l'œil pas très lointain de la Cour de justice de l'Union européenne et qui s'impose donc au législateur français qui doit tenir compte impérativement est-ce qu'on appelle ça une contrainte ou en tout cas une garantie, en tout cas de ce cadre européen. On ne peut pas faire l'économie de ce cadre. C'est pour ça que tu m'évoquais la question d'une loi autoritaire. Moi, j'irais plutôt une loi souverainiste et extrêmement expansive, mais aussi autoritaire, évidemment, sous certains aspects, qui pose des soucis extrêmement lourds dans un cadre européen.
Et
la loi SREN, elle peut s'appliquer de la façon la plus vaste possible, mais à ce moment-là, il faut que la France quitte l'Union européenne.
Et ça risque d'être un petit peu compliqué. Et est-ce que, vu les mises en garde, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les mises en garde de l'Union européenne, est-ce que la loi SREN a des chances d'être définitivement adoptée dans les mois qui viennent?
Alors, c'est très difficile à dire, mais au regard des nuages qui s'amoncellent...
C'est mal parti.
Le texte en l'état, je pense que ça va être très compliqué. Il va devoir être déplumé, reformaté pour de nombreuses dispositions. Et ce travail un petit peu a posteriori, il est regrettable parce que normalement, si le texte avait été particulièrement bien travaillé, on aurait dû prévoir, l'exécutif français aurait dû prévoir, puisque c'est un projet de loi donc d'origine gouvernementale, aurait dû anticiper ce risque-là, parce qu'ils ont le gouvernement a des fins juristes, ils auraient dû anticiper ces problématiques-là, pour éviter aujourd'hui d'espérer de sauver le soldat SREN malgré tout, alors que celui-ci, il est blessé de toutes parts.
Oui, là, on a bien compris que c'est mal engagé, c'est sûr. Autre question, parce que j'aimerais revenir sur ce point, on est passé assez rapidement dessus, mais je l'ai vu tellement de revenir, en fait, le point sur l'anonymat, le pseudonymat, comme tu as dit, en ligne, que je voulais revenir un petit peu dessus. Est-ce que c'est, comment dire, réellement menacé? Est-ce que, en fait, le principe même d'anonymat, de pseudonymat en ligne est protégé, garanti juridiquement par la loi française ou européenne?
Ah, aujourd'hui, le pseudonymat, il est protégé. Enfin, l'anonymat n'est pas, c'est pas un absolutisme. D'ailleurs, on le voit très régulièrement, même des internautes qui sont planqués, entre guillemets, derrière un pseudo et un VPN, peuvent être condamnés,
oui,
pour
des solutions
extrêmement crasseux, et j'allais dire heureusement. Et c'est pour ça que je sursaute à chaque fois que j'entends un politique évoquer Internet zone de non-droit. Non, c'est une zone de droit. Alors parfois il y a des difficultés techniques, mais elles peuvent se résoudre et on y arrive. Très régulièrement, on voit des internautes planqués derrière des pseudos, être condamnés pour des diffamations, des injures, donc être condamnés lourdement et proportionnellement, et c'est tant mieux. Sur le texte en question, sur la question de l'identité en ligne, il commande simplement, entre guillemets, un rapport. On aura un rapport qui va plancher sur la question. On n'en est pas encore aujourd'hui à la mise en place effective d'une espèce de contrôle d'identité généralisé dès lors qu'on va appuyer sur le bouton on de sa box. On n'est pas encore là.
Oui, d'accord, il faut un peu relativiser.
Relativiser, oui. Mais là aussi, j'insiste, savoir exactement quels sont les sites que je visite permet de tracer un portrait extrêmement fin de ma personnalité, mais aussi de mes orientations politiques. Si je vais, je sais pas moi, sur tel site centriste, gauche, droite, d'extrême, peu importe, on saura que soit j'enquête dessus, peut-être, soit j'ai un intérêt intellectuel extrêmement poussé à consulter très régulièrement ces contenus-là. Donc, là aussi, les orientations, enfin les convictions politiques, les orientations syndicales ou sexuelles, etc., religieuses aussi. Hein, si je vais tous les jours sur le site de tel courant ou autre, on saura quelles sont mes convictions. Et là encore, on en arrive au RGPD, au fameux RGPD, qui exige une protection extrêmement, extrêmement, extrêmement forte de ces données à caractère sensible qui relèvent de l'intime et de la liberté de conscience et de pensée de chacun. Donc, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on peut instaurer un système de contrôle d'identité, de vérification et de suivi, etc. Enfin, je sais pas quel... On est sur le seuil de la porte d'une espèce de big brotherisation de l'accès à Internet. On n'en est pas encore là, mais...
Mais il faut être vigilant.
Il faut être vigilant, et c'est pour ça que tout rappel, avec les fondamentaux, donc j'ai beaucoup évoqué le RGPD, peut-être un peu trop, mais j'y tiens. Les courriers de Thierry Breton pour rappeler qu'il y a un droit européen qui s'applique et il faut respecter le DSA et il faut respecter le cadre existant et aussi la directive qui vient encadrer la responsabilité des plateformes en ligne ou des hébergeurs comme YouTube, etc. Donc tous ces éléments-là contribuent aussi finalement au respect des individus pour faire en sorte que un État ayant des... Je sais pas quoi, étant d'une espèce de logique de roue libre, arrive à faire adopter tout et n'importe quoi.
Il faudra donc rester vigilant, on retiendra ça. Dernière question, est-ce que finalement la loi française n'est pas, cette loi française, SREN, n'est pas un petit peu trop en avance? C'est l'avis de certains de ses partisans, elle serait trop en avance par rapport à ce qui est déjà fait au niveau européen.
Une loi trop en avance, il y a une coloration, il y a un parfum marketing qui me dérange un peu. Je vais essayer de rester un petit peu neutre là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle, je sais pas si elle est très en avance, mais en tout cas, elle est pas au bon étage. elle est à l'étage France, alors qu'elle devrait peut-être être proposée à l'étage européen après le circuit législatif habituel, pour faire en sorte d'arriver justement à un corpus juridique qui soit unifié auprès de l'ensemble des États membres. Mais que la France fasse cavalier seul ainsi, c'est peut-être aussi une stratégie intéressante d'un point de vue politique. Hein. C'est montrer premièrement que moi, France, je suis en avance sur vous, autres États membres, et toi, Commission européenne. Mais c'est aussi une stratégie, pardon du terme, mais un petit peu casse-gueule, parce que tôt ou tard, et c'est déjà arrivé donc, la Commission tire la sonnette d'alarme pour rappeler quelques fondamentaux à Paris lorsque le gouvernement oublie que il y a un cadre existant et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et avant d'aller voir le futur, essayons peut-être de respecter le présent.
C'est un beau principe et c'est là-dessus qu'on terminera. Merci Marc pour tes explications. Bienvenue sur cette loi SREN.
Merci Grégoire, à très bientôt.
C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Vous l'avez entendu, les débats autour de cette loi dite SREN sont nombreux. Avec mon invité Marc Ries, nous n'avons pas pu évidemment évoquer absolument toutes les mesures de ce texte dans le détail. Elles sont en effet nombreuses, mais celles qui posent le plus débat, de discussion, elles ont été abordées. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous rappeler que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer et nous laisser une note et un commentaire. Allez, à la semaine prochaine!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.